RFI, les 8h à Washington, 14h à Paris, midi en temps universel.
RFI midi.
Et le grand journal international, c'est avec vous Olivier Sherman, bonjour.
Bonjour Alban, bonjour à toutes et à tous. Une catastrophe aérienne dans le nord-ouest de l'Inde, un avion de ligne s'est écrasé au moment du décollage avec à son bord 242 personnes, aucun survivant. Nous rejoindrons dans quelques instants notre correspondante à New Delhi. Le dossier nucléaire iranien, l'Iran fait monter la pression avant des pourparlers avec les États-Unis. Téhéran annonce la prochaine construction d'un nouveau site d'enrichissement et une augmentation significative de sa production d'uranium enrichi. La situation à Los Angeles, encore des manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump. Nous serons avec des sans-papiers qui ont peur de la police et d'être expulsés. La suite de la conférence internationale des océans à Nice. Gros plan aujourd'hui sur la pollution sonore, le bruit qui a de graves conséquences sur la vie marine. Enfin, une pluie d'hommage après la mort à 82 ans de Brian Wilson, le cofondateur du célèbre groupe de musique The Beach Boys.
On commence donc, Olivier, avec cette catastrophe aérienne en Inde.
Un avion de la compagnie Air India s'est écrasé près de l'aéroport d'Ahmedabad, dans le nord-ouest de l'Inde, peu après son décollage pour Londres. À son bord, 242 personnes, dont 230 passagers et 12 membres d'équipage. Nous retrouvons notre correspondante à New Delhi, Léa Ojal. Bonjour Léa.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Alors, quelles sont les dernières informations à ce stade ?
À bord de l'appareil, un Boeing 787 Dreamliner, se trouvaient 169 ressortissants indiens, 53 britanniques, un canadien et 7 portugais. L'avion, qui devait atterrir à Londres à 18h25, s'est écrasé peu après son décollage. Très rapidement après le départ, le vol a lancé un appel de détresse avant de perdre le contact avec le contrôle aérien. C'est le premier accident grave de ce modèle. Et sur les images, on voit l'avion perdre en altitude petit à petit, train d'atterrissage toujours sorti, puis une explosion sourde et un panache de fumée qui s'élève dans le ciel. Et selon un témoignage rapporté par l'agence de presse locale, l'avion se serait écrasé sur une auberge de jeunesse.
Et sur place, quelles sont les réactions à la mi-journée ?
Eh bien, selon le chef de la police d'Ahmedabad, il n'y a aucun survivant. L'ancien ministre en chef du Gujarat ferait partie des victimes. Le premier ministre indien Narendra Modi a réagi sur les réseaux sociaux, se disant abasourdi et profondément attristé. Cet accident brise le cœur au-delà des mots. La présidente indienne a elle aussi exprimé son émotion, qualifiant le crash de catastrophe bouleversante. Et le ministre de l'Intérieur indien, Amit Shah, doit se rendre sur les lieux du drame. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.
Merci Léa Ojal en direct de New Delhi, que nous retrouverons dans nos prochaines éditions. Pour les dernières informations sur cette catastrophe aérienne, j'ajoute que le gouvernement britannique exprime sa profonde tristesse à propos de l'accident bouleversant qui transportait notamment 53 Britanniques. Enfin, le Premier ministre portugais se dit consterné par le décès de 7 compatriotes qui étaient à bord.
Le dossier nucléaire iranien, c'est toujours très tendu entre Washington et Téhéran.
L'Iran dit qu'il va construire un nouveau site d'enrichissement et augmenter sa production d'uranium, et ce, après l'adoption par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, d'une résolution condamnant le pays pour non-respect de ses obligations nucléaires. Bonjour Alice Froussard.
Bonjour.
Alors, ces annonces surviennent dans un climat déjà très crispé. Hier, les États-Unis ont annoncé avoir déplacé une partie de leur personnel au Moyen-Orient après que Téhéran a menacé de frapper leur base militaire.
Oui, et cette résolution appelle Téhéran, je cite, à remédier d'urgence au non-respect des engagements pris dans le cadre du traité de la non-prolifération des armes nucléaires. En d'autres mots, cela veut dire que l'instance onusienne estime qu'elle n'est pas en mesure de garantir que le programme nucléaire iranien est exclusivement pacifique. Il faut dire que ces derniers mois, Téhéran a accéléré sa production d'uranium enrichi à 60%, un seuil proche des 90% nécessaire à la conception d'une bombe. Mais avec cette nouvelle résolution adoptée par l'AIEA, la véritable interrogation et celle de l'avenir. Car cela pourrait ouvrir la voie à un rétablissement des sanctions internationales, une question particulièrement pressante à l'approche d'octobre 2025, date qui marque la fin de validité de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU qui soutient le plan d'action global commun. Ce qui veut dire que dès lors que cette date est dépassée, toute tentative de réimposition de sanctions pourrait être bloquée par un veto, notamment de la part de la Russie, qui entretient des relations étroites avec l'Iran. La résolution du jour est donc un moyen de pression supplémentaire sur Téhéran, tout en laissant la porte ouverte à de plus grandes négociations. De nouveaux pourparlers sont déjà prévus à Oman ce dimanche entre les États-Unis et l'Iran.
Merci Alice Roussard du service international de RFI.
Et sur ce dossier nucléaire iranien, notre invité dans une dizaine de minutes, ce sera David Rigoulet-Rose. Il est chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. En Israël, l'opposition échoue à dissoudre le Parlement et déclencher des élections.
Le Parlement israélien a rejeté ce matin à une courte majorité un projet de loi visant à sa dissolution après la conclusion d'un accord entre Benjamin Netanyahou et les partis ultra-orthodoxes de sa coalition. Au total, 61 députés sur les 120 que compte la Knesset ont voté contre le texte. Sur le terrain, les réseaux de téléphonie et Internet sont désormais coupés dans l'ensemble de la bande de Gaza. Et ce, en raison d'une attaque sur la dernière ligne principale de fibre optique encore en service dans ce territoire. Sur le terrain toujours, mais en Égypte cette fois, plus de 200 militants de diverses nationalités venus en Égypte pour participer à une marche internationale vers Gaza ont été interpellés à leur hôtel ou retenus à l'aéroport du Caire. L'Égypte rappelle que ce type de manifestation est soumis à une autorisation préalable de leur part. L'Égypte souligne dans le même temps qu'il importe de faire pression sur Israël pour lever le siège de la bande de Gaza et permettre l'accès humanitaire. Et puis les militants du bateau pour Gaza arrêtés par Israël, parmi lesquels l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, sont en route pour l'aéroport Ben Gourion en vue d'être expulsés.
À Los Angeles, la tension reste forte. Donald Trump n'a visiblement pas l'intention de reculer.
Plus de 1000 personnes ont encore manifesté pacifiquement mercredi dans les rues de Los Angeles avant une deuxième nuit de couvre-feu dans le centre-ville imposée par la mairie. Des manifestations contre la politique migratoire musclée de Donald Trump malgré le déploiement de militaires dans la ville. ICE, la police de l'immigration, continue ses raids pour arrêter et expulser les sans-papiers de la région. Les manifestations se poursuivent, même si la ville connaît sa deuxième nuit de couvre-feu. Alors comment vivent les principaux concernés par les raids de ICE, les sans-papiers et leurs familles? Un reportage de Loïc Piala à Los Angeles.
Mardi devait être un jour de fête pour Blanca et sa famille. Son fils célébrait sa remise de diplôme, mais des rumeurs ont circulé sur la présence d'agents de l'immigration près des écoles des quartiers latinos. Et sur la route de la cérémonie, elle a croisé un véhicule de ICE, la police de l'immigration. Elle a tout de suite appelé son mari, sans papier.
Et là, j'ai paniqué. Je n'arrivais même plus à retrouver les tickets de la cérémonie dans mon sac. Le principal avait aussi pris la décision d'autoriser les parents à attendre à l'intérieur pour éviter que l'immigration ne puisse les approcher, eux et leurs invités.
Son mari, ouvrier dans le bâtiment, n'est pas allé travailler cette semaine.
Il a peur. Il m'a dit qu'à moins d'être obligé de sortir, il préférait rester à la maison.
Les parents de Sarai, non plus, ne sortent pas de chez eux.
Mes parents n'ont pas de papier, mais ils travaillent dur et ils paient des impôts. Ça fait 30 ans qu'ils vivent ici.
La jeune femme de 22 ans, citoyenne américaine, a rejoint les manifestations du centre-ville. Elle a emmené sa petite sœur en restant à l'écart de la foule. Toutes les deux portent une pancarte écrite en espagnol. Pour ma maman, pour mon papa, pour nos familles.
On espère surtout faire prendre conscience du problème. Les choses ne vont peut-être pas changer tout de suite, mais c'est le début de quelque chose. Nos voix comptent. Je me dis que notre présence à toutes les deux peut faire changer les gens d'avis.
Depuis vendredi, au moins 300 personnes ont été interpellées par ICE dans le sud de la Californie. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
Et Olivier, ces manifestations, elles s'étendent à d'autres villes américaines.
Le mouvement de protestation contre la politique migratoire de l'administration Trump se multiplie effectivement, mais reste d'ampleur limitée aux États-Unis. Il y a des manifestations par exemple à New York, Indianapolis ou encore Denver. Au-delà du président américain, un autre homme incarne ces politiques, Stephen Miller, conseiller ultra-puissant à la Maison-Blanche. Son portrait brossé par Oriane Verdier.
Il est devenu le monsieur immigration de l'administration américaine. À la Maison-Blanche, comme sur les plateaux télé, où il affirme vouloir sauver la civilisation face à l'invasion de migrants. Un intouchable de l'équipe Trump, affirme NBC News, qui cite un ancien conseiller de la Maison-Blanche. Stephen Miller, c'est l'identité du président, affirme-t-il. Il l'est depuis un certain temps, c'est seulement maintenant qu'il a l'influence et le pouvoir nécessaire pour concrétiser pleinement son projet. Et pour cause, depuis le début du mandat présidentiel, le conseiller à la sécurité intérieure a fait signer des dizaines de décrets décret exécutif au président. Il ne se contente pas d'être l'architecte de la politique anti-migrant de Donald Trump. Il est également en première ligne dans son application. En mai dernier, selon le New York Times, Stephen Miller a ainsi donné l'ordre à ICE, la police de l'immigration, de redoubler d'efforts. Ordre qui a mené à une descente de ICE dans un magasin de bricolage de Los Angeles, suivi de heurts entre manifestants et forces de l'ordre, et enfin de la décision de Donald Trump de déployer des militaires contre l'avis du gouverneur de Californie.
Victime de tensions géopolitiques, de modes de consommation qui changent, les ventes de spiritueux baissent.
La situation est particulièrement compliquée à l'exportation pour le cognac, armagnac et autres eaux-de-vie françaises. C'est ce que rappelle Guillaume Gérard Redet, président de la Fédération française de spiritueux.
Depuis 3 ans, on est pratiquement à moins 12, moins 8 et moins 7,4% sur les 4 premiers mois de 25. Donc quand ça se cumule, ça fait quand même beaucoup. La tendance, effectivement, pour le moment, elle est encore négative assez fortement parce que pèse toujours la situation chinoise et la situation américaine. Aujourd'hui, quand on prend la part de la Chine plus des États-Unis, c'est plus de 80% de nos exportations de spiritueux, mais on a d'autres marchés qu'on pourrait réussir à ouvrir. Donc il faut qu'on arrive, nous aussi, à l'instar de ce qui a été fait par la Grande-Bretagne avec l'Inde, à essayer de développer des accords nous permettant d'ouvrir le marché canadien aussi, qui est aujourd'hui bloqué. Donc on a aussi des ambitions de se dire, et évidemment, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est un élément clé aussi de notre vie.
Guillaume Gérard Redet, interrogé par Agnieszka Kumor.
Il est 14h11 à Nice, où la conférence de l'ONU sur l'océan se poursuit.
L'UNESCO et le Programme des Nations Unies pour l'environnement lancent une grande évaluation des différentes pollutions qui affectent les océans, y compris la pollution sonore. Sans attendre les résultats de cette enquête, cette semaine, le Panama et le Canada ont lancé la Haute Coalition pour un océan plus silencieux, une haute coalition qui s'engage à mettre en place des mesures pour réduire le bruit causé par l'homme sur et sous la mer, un bruit qui a de graves conséquences sur la vie marine. Explication Jeanne Richard.
Sous l'océan, la lumière ne pénètre pas très loin, mais les sons, eux, se propagent bien mieux que dans l'air. Les animaux marins se basent donc beaucoup sur leur oui pour communiquer, comme cette baleine à bosse au petit matin. Cette otarie qui appelle son petit, jusqu'au tout petit poisson clown. Et puis les hommes sont arrivés, prospection pétrolière, sonar militaire, construction d'éoliennes offshore et bien sûr, transport maritime.
Le nombre d'activités humaines au-dessus et en dessous de la surface de la mer a considérablement augmenté et donc créé une cacophonie de sons qui vient noyer tous les sons naturels de l'océan et donc perturber tous les animaux.
Aurore Morin, du Fonds international pour la conservation des animaux, détaille les conséquences pour la faune marine, trop souvent sous-estimée.
Ça les empêche de se diriger, de communiquer convenablement, donc de se reproduire, de chasser, de se nourrir, etc. Et dans le pire des cas, ça peut venir leur causer des blessures à leurs organes auditifs, notamment des hémorragies internes, et causer la mort de l'animal, le pire des cas.
Elle appelle à la rénovation des bateaux, mais aussi à une baisse de leur vitesse. Une réduction de 10% permettrait de diminuer leur impact sonore de 40%. Jeanne Richard, Nice, RFI.
Enfin, une pluie d'hommage après la mort de Brian Wilson à l'âge de 82 ans.
Le cofondateur du célèbre groupe de musique The Beach Boys, Brian Wilson, était bassiste, chanteur, producteur et compositeur. Il avait permis aux Beach Boys d'accéder à la gloire grâce à des tubes planétaires. Les plus grandes stars saluent Brian Wilson comme un génie de la musique. Rachel Duceppe.
Sa musique vivra toujours, comme Nancy Sinatra sur Instagram. Le monde de la musique rend hommage à Brian Wilson, décédé mercredi. Pour la chanteuse américaine, l'un des plus grands moments de sa vie aura été de chanter le titre California Girls avec lui. Bob Dylan, Ronnie Wood, John Cale saluent le Mozart américain, comme l'écrit sur X Sean Ono Lennon. Pour son père John Lennon, l'album Pet Sounds était d'ailleurs l'un des meilleurs de tous les temps. Que Dieu bénisse Brian Wilson a rendu hommage Ringo Starr, le batteur des Beatles, l'un des rares groupes à dépasser la popularité des Beach Boys au début des années 60. Célébrité comme anonyme, salue son travail sur les réseaux sociaux et chaque jour, plus de 12 millions de fans écoutent encore les tubes des Beach Boys sur Spotify.
If everybody had a notion across the USA, then everybody be served like California.
Surfing USA, l'un des tubes planétaires des Beach Boys, une création de Brian Wilson qui s'est donc éteint à l'âge de 82 ans. Tout de suite, c'est la suite de RFI Midi avec vous, Alban Le Prince.
À tout à l'heure, Olivier. Et le journal des sports, c'est avec vous Christophe Diremzian. Bonjour.
Bonjour Alban.
En football, J-2 pour la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Les joueurs du Paris Saint-Germain sont arrivés en Californie pour prendre leur marque.
Et oui, les festivités post-victoire en Ligue des Champions, c'est bel et bien fini. Les nouveaux rois de l'Europe ont désormais une réputation et un statut à défendre dans le cadre de cette compétition revue de fond en comble par rapport à la version originale, très restreinte et il est vrai peu visible. 32 clubs répartis en 8 poules de 4 équipes. Le PSG va entamer son tournoi dimanche au Rose Bowl de Pasadena, près de Los Angeles, face à l'Atlético de Madrid, des Colchoneros, tout aussi impatients que les Parisiens de se lancer dans ce tournoi outre-Atlantique, à l'image du milieu de terrain coquet.
Jouer à une Coupe du Monde, c'est toujours le summum. Et là, c'est la première fois qu'on peut la disputer avec son propre club. Moi, par exemple, qui suis un enfant du club de l'Atlético Madrid, c'est une fierté de pouvoir représenter mon équipe et aussi mon pays, l'Espagne, dans cette Coupe du Monde. C'est sûr que l'ambiance va être incroyable. Les supporters ont vraiment envie de voir ce genre de match ici aux États-Unis. Et je pense que ça va être une atmosphère formidable. Les gens vont soutenir les deux équipes et ce sera une belle ambiance de football. Et j'espère qu'on pourra offrir un grand spectacle pour que tout le monde en profite.
Coquet avec l'Atlético de Madrid contre le PSG, ce sera dimanche, mais ce mondial des clubs démarre bien samedi en heure américaine à Miami avec le club local, l'Inter Miami de Lionel Messi, face aux Égyptiens d'Al Ahly. La Pologne, elle, va devoir se trouver un nouveau sélectionneur. Michal Probierz quitte ses fonctions après la défaite 2-1 contre la Finlande mardi en éliminatoire du Mondial 2026. Et, je cite, pour le bien de l'équipe nationale, il faut dire qu'il était légèrement sous pression car l'attaquant vedette Robert Lewandowski, qui s'était vu retirer le brassard de capitaine dimanche, avait annoncé se retirer de la sélection tant que Michal Probierz restait en poste.
Le basket et les Indiana Pacers prennent une longueur d'avance dans la grande finale NBA.
Ils mènent 2-1 désormais face à Oklahoma City après un succès à domicile 116-107. Indiana s'est appuyé sur des joueurs sortis du banc, le Canadien Bénédicte Mathurin, 27 points, et le meneur remplaçant TJ McConnell avec 10 points, 5 passes et 5 interceptions. Tout le monde au diapason chez les Pacers. Voilà la clé de la réussite selon Pascal Siakam, l'ailier camerounais des Pacers.
On a juste cherché à jouer notre jeu avec nos forces. Quel que soit le match, il sera difficile. Donc, qu'on soit mené ou qu'on soit devant, notre niveau d'intensité doit rester le même. On doit se battre, répondre à leurs défis physiques et espérons que même si le match est serré, on peut l'emporter. On a les gars pour ça. Et c'est pour ça que je suis là, pour apporter mon état d'esprit à l'équipe. Je ne me focalise pas sur le fait de marquer 20 points, non. Je veux juste continuer à faire ce qu'il faut pour gagner. Même si ça signifie qu'il faut défendre, courir, aller au rebond ou plonger sur le parquet. Et je pense que c'est pour ça qu'on est spéciaux. C'est qu'on a les gars pour faire ça.
Pascal Siakam avec les Pacers qui enchaîneront avec le match 4 dans la nuit de vendredi à samedi.
Et puis au Canada, une des stars de la natation aux Jeux Olympiques de Paris est en train d'affoler les chronos lors des championnats nationaux.
C'est parti pour être son été. Comme elle s'appelle Summer, ça tombe très bien. Summer McIntosh, 18 ans, triple médaillé d'or au JO 2024, a déjà battu 3 records du monde en 5 jours sur ses distances fétiches. Le dernier en date, celui du 400 mètres 4 nages en 4 minutes 23 secondes et 65 centièmes, 73 centièmes de mieux que sa propre référence précédente. Elle avait déjà passé par le fond, si l'on peut dire, les records du 400 mètres et du 200 mètres 4 nages. Ça promet pour les mondiaux de Singapour fin juillet.
Merci beaucoup Christophe Diremzian.
RFI, le monde à midi.
Et le ton continue de monter entre l'Iran et les Occidentaux. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, a condamné ce matin Téhéran pour non-respect de ses obligations nucléaires. En réaction, l'Iran a annoncé la prochaine construction d'un nouveau site d'enrichissement d'uranium, le tout en pleine période de pourparlers avec les États-Unis. Bonjour David Rigoulet-Rose.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, et à l'Institut Français d'Analyse Stratégique, spécialiste du Moyen-Orient et de la péninsule arabique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Première question, le climat est très tendu en ce moment entre les États-Unis et l'Iran. Pourquoi ?
Ah oui, tout simplement parce qu'on arrive au moment de vérité. En réalité, il y a un sixième cycle de négociations qui est censé être effectué à Mascate ce week-end. Il est très incertain, tout simplement parce que là, on est rentré dans le dur de la négociation, c'est-à-dire les éléments qui font obstacle à la finalisation d'un accord potentiel. En l'occurrence, l'enrichissement, la filière de l'enrichissement, puisque d'un côté, il y a l'Iran qui dit qu'il est hors de question de ne plus enrichir in situ, c'est-à-dire en Iran, et de l'autre, il y a la position américaine qui maintenant semble plus claire, puisqu'elle n'était pas aussi claire au début, sur le nécessaire démantèlement de la filière de l'enrichissement, ce qui est jugé inacceptable pour Téhéran, et ça explique la montée des tensions qui est manifeste, et qui n'est pas uniquement rhétorique, puisque les Américains ont annoncé qu'ils retiraient un certain nombre de personnels des bases et des ambassades qui font face à l'Iran, et que l'Iran, de son côté, a menacé de frapper directement les bases américaines dans le Golfe. Donc on voit bien qu'on arrive à un moment critique. C'est potentiellement ce que les Américains appellent le tipping point, c'est-à-dire le point de bascule.
Est-ce que Téhéran a franchi aujourd'hui une ligne rouge ou peut-être orange sanguine en annonçant cette augmentation significative de la production d'uranium enrichi ?
Oui, c'est un mauvais signe, parce qu'effectivement, l'Iran a annoncé d'ailleurs le lancement d'un troisième cycle d'enrichissement avec des centrifugeuses élaborées IR6, c'est-à-dire les plus performantes. Donc il avait annoncé qu'il y aurait des réponses, évidemment, à la résolution de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a pris acte du fait que l'Iran était en infraction caractérisée et continue justement par rapport à ses engagements. Et en réalité, la résolution de l'AIEA c'est l'antichambre d'un passage devant le Conseil de sécurité et le possible rétablissement des sanctions via le snapback, qui est un mécanisme qui avait été prévu par la résolution 2231 de juillet 2015, au moment de la finalisation du JCPOA, l'accord sur le nucléaire, et ce qui fait très peur à Téhéran, parce que ce serait le rétablissement non pas seulement de sanctions bilatérales comme avec les Américains, mais de sanctions internationales. Et donc évidemment, ça accentuerait les difficultés économiques et l'Iran se campe dans son intransigeance par rapport à évidemment tout compromis envisagé.
Est-ce que l'Iran pourrait avoir la bombe dans les prochains mois, les prochaines années ? On rappelle que ces derniers mois, Téhéran a accéléré sa production d'uranium pour arriver à un seuil proche des 90% nécessaires à la fabrication de cette fameuse bombe.
Oui, selon les rapports révélés par Raphaël Grossi, effectivement, l'Iran aujourd'hui dispose de 9247 kilos d'uranium enrichi, mais surtout de 408 kilos à 60%. Et ça veut dire une hausse de l'enrichissement de kilos de 133 kilos depuis février dernier. Ça veut dire que l'Iran est engagé dans une dynamique exponentielle d'enrichissement. Or, on sait qu'aujourd'hui, 410 kilos à 60%, c'est potentiellement 10 bombes, dans la mesure où il faut 42 kilos à 60% pour arriver à une bombe. Donc, clairement, il y a un problème qui n'est pas résolu, qui a été stigmatisé par Raphaël Grossi, dont c'est le rôle, puisqu'il est le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et il se trouve qu'il y a une déclaration de Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la Défense, qui dit qu'aujourd'hui, manifestement, il semblerait que l'Iran soit engagé dans une dynamique vers la bombe. Tous ces éléments rhétoriques, qui ne sont pas que rhétoriques, évidemment, sont préoccupants, parce que ils alimentent l'idée que il y a une rupture potentielle avec des conséquences incalculables.
Donald Trump, jusqu'ici, tentait de freiner Benjamin Netanyahou. Est-ce qu'aujourd'hui, il va continuer de le calmer, entre guillemets, sur ce dossier ?
Oui, Donald Trump, depuis le début, veut parvenir à un accord. Il ne souhaite pas une opération militaire, qu'il n'a jamais exclue, mais en espérant qu'elle n'aurait pas lieu. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Donald Trump est obligé de reconnaître que l'obstruction iranienne, en fait, risque de le conduire à cette opération militaire qu'il ne souhaite pas mener, clairement. Et là, évidemment, il y a la position israélienne qui sera contentée par ce principe de nécessité, même s'il y a beaucoup, évidemment, d'attendus incertains dans le cas d'une opération militaire, parce que de toute façon, il y aura une réponse iranienne, à la fois sur Israël, et évidemment, les Américains ne pourront pas ne pas réagir, et puis il y a toutes les bases américaines qui sont menacées. Donc, il y a une logique aujourd'hui, effectivement, belligène qui se met en place, qui est très, très préoccupante, avec l'idée en arrière-plan que de toute façon, du point de vue américain, la barre a été mise à un tel niveau qu'il ne pourra pas être accepté que l'enrichissement soit maintenu en Iran. Donc, on approche du moment de vérité.
Et c'est pour ça que Donald Trump a décidé ces derniers jours de déplacer les membres du personnel américain au Moyen-Orient. Il l'a dit, hein, ça pourrait être un endroit dangereux dans les jours à venir, le Moyen-Orient.
Oui, alors ça fait partie aussi, il y a des éléments évidemment d'informations qui sont révélés, qui font partie de la pression diplomatique. Mais à un moment donné, la question sera posée de savoir si la pression diplomatique peut être effectivement actualisée ou pas, si elle sert. Et le problème, c'est que si elle ne sert plus, on arrivera au moment où il y aura que l'option militaire. Et les deux parties en sont conscients, à la fois Téhéran et les Américains. Et on voit bien que là, ce qui se met en place est effectivement très très dangereux au niveau régional. Les pays arabes concernés, puisque c'est eux qui abritent un certain nombre de bases, hein, que ce soit le Koweït, Bahreïn, où il y a la cinquième flotte, et puis le Qatar, où il y a l'USNCOM, les Émirats. Donc tous ces pays sont exposés. Et Téhéran n'a pas manqué de faire savoir qu'ils seraient les premiers visés en cas de conflit ouvert.
Merci beaucoup David Rigolet-Rose. Je rappelle que vous Merci. Êtes chercheur associé à l'IRIS, à l'Institut français d'analyse stratégique, spécialiste du Moyen-Orient et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci d'avoir été avec nous sur RFI.
RFI Midi.
Un nouveau drame aérien. Ce matin, un avion Air India qui transportait 242 personnes s'est crashé au décollage de l'aéroport d'Ahmedabad au nord-ouest de l'Inde. Bonjour Thierry Vigoureux.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Point, spécialiste aéronautique et transport aérien. L'avion qui s'est écrasé, c'est un Boeing, encore un ?
Non, enfin, c'est un Boeing 787, un avion qui a connu quelques petits problèmes techniques au début, mais pas majeurs, et qui n'a jamais connu de crash, contrairement au 737, où on déplore de crashs majeurs ces dernières années.
C'est ça, donc les Boeing 787-8 Dreamliner, en l'occurrence c'est ce modèle d'avion qui s'est crashé ce matin, ils ne sont pas particulièrement connus pour avoir des problèmes.
Non, mais alors il y a la conception de l'avion, mais après il y a l'entretien et le suivi des visites qui dépendent de la compagnie aérienne et qui ne dépendent plus du constructeur Boeing.
Et Air India suit régulièrement ces avions ?
Air India a relativement bonne réputation par rapport à d'autres compagnies de la zone. On peut pas. Elle est associée dans des alliances internationales. On ne peut pas dire qu'elle ait des problèmes de maintenance.
Dernière question, on imagine que les boîtes noires vont parler. Il va falloir combien de temps pour les retrouver très rapidement ?
Alors, comme l'avion est au sol, du moins l'épave de l'avion est au sol, on va retrouver les boîtes noires, les enregistreurs de vol parmi les décombres. On peut penser qu'elles ont résisté à l'incendie qui a suivi le crash. Après, elles vont être analysées. Il y a par contre un élément qui interroge.
Oui.
Le fait que le train d'atterrissage n'ait pas été rentré, est-ce que ça laissait supposer que l'équipage avait l'intention de revenir s'atterrir ?
Merci beaucoup Thierry Vigoureux.
Cool. Tout à l'heure sur RFI.
Couleur tropicale, Claudie Ciard.
Ce jeudi, l'icône Craig David fait ses couleurs tropicales. Craig David nous présentera Commitment, son nouvel album dont la sortie est prévue en juillet. Craig David sera face à la team Couleur Tropicale. Ce jeudi, Craig David sur RFI, c'est l'événement. Ça fait 10 fois que j'ai dit Craig David, je pense que tout le monde est au courant. Craig David.
Couleur Tropicale.
Du lundi au vendredi à 20h10 TU sur RFI. Craig David. La marche du monde. Valérie Nivelon.
Nous sommes le 13 novembre 1974. Yasser Arafat est invité pour la première fois à la tribune de l'ONU. Le chef de l'OLP prononce un discours historique et fait basculer l'opinion publique internationale en faveur de la reconnaissance de la cause palestinienne.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
À samedi à 14h10, temps universel sur RFI.